Ne manquez pas le balado « Relève-toi », présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
Salut tout le monde, bienvenue au balado Sortie de zone, une collaboration du 98.5 et de La Presse. Philippe Cantin avec vous en remplacement de notre ami Jérémy Rainville. Jérémy qui est parti jouer au hockey dans le sud de la France. Alors, j'ai déjà hâte qu'il nous raconte ça à son retour. Disons qu'il y a pire façon de passer une semaine du mois de janvier que d'aller jouer au hockey en France. J'accueille avec plaisir Stéphane White du 98.5. Salut Stéphane!
Salut les gars, ça va bien?
En pleine forme, je te remercie. Et devant moi, Guillaume Lefrançois de La Presse. Salut Guillaume.
Salut Phil, salut Stéphane.
Bon, alors, salut. Vous avez écouté beaucoup de hockey durant le temps de Noël. Vous n'avez pas démissionné, fermé après la première période ou après la deuxième devant les insuccès du Canadien?
Écoute, t'as dit beaucoup de hockey, ça inclut également le championnat du monde junior. Ouais. Donc oui, regardez beaucoup de hockey. J'ai regardé ça aussi. Mais non, écoute, match du Canadien, le travail de toute façon nous amène à regarder au complet. Hein.
Ça va pas tellement bien, hein? On va plonger dans le vif du sujet. Je commence avec trois chiffres. 1-8-1. 1-8-1, c'est l'affiche du Canadien dans ses 10 derniers matchs. C'est pas glorieux. Stéphane, on fait quoi avec ça?
Oh, parce qu'on peut dire que la chaîne a débarqué, hein, bon français?
Oui, je pense que oui.
Et aussi la seule victoire, faut pas l'oublier, c'était une performance incroyable de Sam Montembeau, ce que le Canadien avait aucune raison de gagner ce match-là. Là, il s'était fait dominer au niveau des tirs, 17 lancés en première période. Donc, ça, c'est la seule victoire, ça, imaginez-vous donc.
Puis c'était contre les Coyotes en plus, une des
faibles équipes. Et les Coyotes. Donc, un voyage très difficile. On va en reparler, mais moi, mon problème, c'est pas la défaite. Et puis la défaite, j'ai pas de trouble avec ça. C'est la façon qu'on perd dernièrement. Et ça me fatigue. Ça fait mal à la culture. Quand on parle de vouloir avoir une bonne culture, où ce qu'on on triche souvent, on est tellement désorganisé dans notre zone. Et puis là, je parle pas seulement des jeunes défenseurs. Je parle de toute l'attaque, les cinq joueurs sur la glace et le gardien de but, 6 incluant le gardien de but. Tout ça, c'est à l'air mélangé. Encore une fois, on a beaucoup de mauvaises habitudes. Donc, c'est la façon de perdre là, qui commence à me faire peur un petit peu parce que tu ne veux pas élever les joueurs dans des mauvaises habitudes, dans une mauvaise culture et puis tout laisser aller et dans 2 ans dire écoute, là, non, là, ça passait là, il y a 2 ans. Et maintenant, ça passe plus. C'est pas ça que tu veux.
Non, tout à fait. Puis l'engagement est pas là. Moi, ce que j'ai trouvé particulier, puis on va parler des autres matchs, mais seulement celui de hier soir là, contre les Prédateurs de Nashville. Tout le monde le savait, il fallait que le Canadien connaisse un gros début de match. Martin Saint-Louis avait été plus sévère dans l'entraînement précédent. Tu ouvres ta télé, tu regardes ça, il y a 11 minutes de jouer, c'est 3-0 pour les Prédateurs. Guillaume, c'était pas le début rêvé.
Non, exactement. Puis tu sais, c'est ça, comme Stéphane dit, il y a la question de la culture, mais il y a aussi la structure défensive, la compréhension des responsabilités. Je me demande réellement dans quelle mesure que c'est compris, parce que le niveau de confusion qu'on voit sur certains buts, là, tu sais, une des choses qui est le fun à faire des fois, c'est que tu fais pause sur l'écran au moment où la passe décisive se fait ou quelque chose comme ça, puis tu te rends compte à quel point que c'est ouvert. Puis, tu sais, des fois, il y a même une des séquences, et c'est Simon Olivier qui l'avait isolé dans son texte d'hier, où il y a 3 joueurs des Prédateurs dans l'écran et 5 du Canadien. Donc, les joueurs sont là, mais je veux dire, il y a personne qui a le bâton à bonne place, personne qui est positionné de la bonne façon, et c'est ce qui fait en sorte que la zone... Que l'enclave et le territoire du Canadien s'ouvre autant, tu sais, pour les adversaires. Donc des choses comme ça, ça laisse croire peut-être des problèmes de communication. Je dis, moi j'étais au match à Washington, la volée de 9-2, j'étais là. Après le match, je demandais aux joueurs, tu sais, est-ce que les joueurs comprennent bel et bien où ils vont? Puis tout le monde ne serait que oui, on comprend, on fait beaucoup de vidéos, tout ça, c'est pas ça le problème. Mais après ça, quand on regarde sur la glace, on se demande réellement s'ils savent. Et comme Stéphane le dit, c'est pas juste les jeunes défenseurs. Là, ça inclut, et c'est beaucoup sur les attaquants aussi, qui doivent justement venir donner un coup de pouce.
C'est intéressant ce que tu dis, Guillaume, parce que tu racontais aussi que l'entraînement, la veille du match à Washington, ça s'est fait dans la bonne humeur. Tout le monde voulait avoir un esprit positif. Là, c'est la raclée de 9-2. Après ça, l'entraînement suivant, avant le match contre les Prédateurs, ben là, Martin Saint-Louis serre la vis. Il n'y a pas beaucoup de fun, puis il y a beaucoup de sueur. C'est un petit peu comme s'il avait essayé les deux méthodes sans résultat.
Ben, c'est ça, exact. À Washington, quand on dit dans bonne humeur, c'est que c'est un entraînement où est-ce qu'il avait organisé. Il fait ça des fois, mais des compétitions à l'interne, des petits matchs à l'entraînement. Puis c'était vraiment divertissant. C'était serré, tout ça. Là, à la fin, Saint-Louis a changé le règlement. Avec là, il y avait une des équipes qui chialait. Puis c'était vraiment drôle de voir les 20 gars autour de Saint-Louis qui ont tous les bras dans les airs puis qui chialent, puis Saint-Louis qui essaie de calmer le jeu. C'était vraiment légitimement drôle à voir comme situation, puis c'était sympathique. Puis bon, ils ont réglé ça par après, puis donc, tu sais, c'est ça, c'est le genre d'entraînement que tu vois, puis tu dis comme, OK, ben tu sais, je pense que ces 20 gars-là, quand ils sont rentrés dans le vestiaire après, je pense qu'ils sont rentrés quand même de bonne humeur, puis ils ont dû avoir une bonne soirée. Puis là, ben arrive le lendemain, puis tu manges une volée.
drôle dans les pratiques, moins drôle dans les parties.
Ouais, oui, c'est ça. Stéphane, ça se traduit pas tout le temps. Hein? Un bon entraînement dans la joie et la sérénité, ça veut pas dire que le match va se dérouler de la même façon.
Non, exactement. Puis je pense que le défi pour Martin Saint-Louis et son staff d'entraîneur, c'est de trouver le juste milieu entre être positif et d'être, sans dire négatif, mais d'avoir une certaine rigidité. Et puis, c'est un petit peu là où j'ai de la misère à situer où ce qu'on en est rendu. Parce que devant les médias, c'est souvent, là, on n'est pas, on joue bien 5 contre 5, c'est rien que nos débuts de période, mais on joue quand même assez bien, puis j'ai aimé telle affaire, puis j'ai aimé telle affaire, mais j'espère qu'à l'intérieur, il y a plus de rigidité que ça. Donc, je dis pas dans Martin Saint-Louis de devenir négatif, puis c'est pas le temps, surtout avec une équipe jeune. C'est parfait d'être positif, mais d'avoir le bon entre les deux, d'être positif, mais de serrer la vis quand c'est le temps. Et puis ça veut pas dire d'être négatif.
C'est drôle ce que tu dis, Stéphane, parce que ce que ça m'amène à penser, à me dire, c'est que tu sais, ça reste que c'est très délicat aussi pour un coach de choisir de quelle façon tu sors devant les médias. Puis quand je dis choisis, ça c'est quand tu choisis, parce que des fois tu arrives après une défaite, t'es juste trop émotif et c'est pas vraiment un choix, là, t'es juste émotif. Mais tu sais, ce que les fans aiment beaucoup de Saint-Louis depuis son arrivée, c'est qu'ils disent il est rafraîchissant, il donne une impression qui est authentique, tout ça, dit les vraies choses, etc., etc. Donc c'est ce que les fans aiment, mais en même temps, s'il était vraiment authentique après les défaites de 9-2, puis 6-3, puis 7-2, puis les voler une après l'autre, ben je disais, ça serait des points de presse qui ressembleraient à ce qu'on voit de John Tortorella parfois. Et dans un marché comme Montréal, on le sait, là, le coach n'a pas besoin d'en rajouter. Là. Je disais, tu dis rien du tout. Puis je disais, il va déjà y avoir une tempête en soi. C'est sûr que si lui y arrive et qu'il se met à pointer les erreurs d'un tel, puis à dire que telle affaire n'a pas d'allure, ben c'est sûr qu'il va juste contribuer à nourrir la machine puis à rendre ça encore plus gros. Donc, tu sais, c'est vraiment un difficile exercice d'équilibre.
Moi, je trouve que c'est un gars assez extraordinaire, Martin Saint-Louis. En tout cas, depuis qu'il est arrivé là, à la barre du Canadien, il a fait des choses le fun, puis il a redonné de la confiance dans l'équipe. Mais là, il traverse sa première période vraiment difficile. Puis c'est là que l'absence d'expérience, mais dans son cas, totale et complète. T'sais, n'importe quel coach qui n'a jamais dirigé une équipe dans la Ligue nationale, mais quand il arrive derrière le banc d'une équipe de la Ligue nationale, dans 99,9% des cas, il a dirigé une équipe dans les rangs juniors majeurs, il a dirigé une équipe dans les rangs collégiaux américains, il a dirigé une équipe dans la Ligue américaine. Il a un bagage de coaching de plusieurs années. Et là, quand il traverse une période plus difficile, même si là, il est rendu dans la Ligue nationale, il peut puiser dans ses expériences passées comme entraîneur-chef pour dire, hey, quand j'étais dans la Ligue américaine ou quand j'étais le junior majeur, j'ai eu une période difficile et trouver un minimum de solutions. Mais Martin Saint-Louis, il ne peut pas faire ça. Il a coaché dans le Pee-Wee, c'est tout. Non, mais c'est vrai, Stéphane.
Ses adjoints n'ont pas beaucoup plus d'expérience. Mm-hmm. Et puis, que ce soit au niveau de ses deux adjoints au niveau des attaquants, de Stéphane Robida ou de son entraîneur des gardiens de but, ils ont pas beaucoup d'expérience. Puis, je dis pas qu'ils sont pas bons.
Même Alex Burrows.
Exact. Ça veut pas dire que tu n'as pas d'expérience, que tu n'es pas bon. Mais il reste qu'à un moment donné, j'aurais aimé qu'un gars comme Martin Saint-Louis s'entoure d'un gars d'expérience, au moins d'un gars d'expérience, un gars qui n'a vu des choses de même dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine, qui n'a vu des situations où on a eu en perte de confiance ou au niveau de notre zone défensive, c'est quoi notre problème, comment qu'on le corrige, comment qu'on adresse les joueurs au niveau des pratiques, c'est quoi qu'on change quand ça va moins bien. C'était des situations qu'un coach d'expérience a déjà vues, a déjà expérimentées. Et il y a des coachs qui se sont cassés la gueule, mais à cause de ça, ils ont appris. Donc, c'est de l'expérience. C'est quelque chose que j'en parlais l'année passée, puis j'en ai parlé au camp d'entraînement, et on en reparle encore. Le manque d'expérience du staff, à un moment donné, fait mal. Et puis là, on est direct là.
Mais si tu prends un gars comme Martin Saint-Louis, si tu amènes un coach d'expérience à ses côtés comme entraîneur associé, disons, un gars comme Alain Vigneault, je vais juste mentionner ce nom-là, je pense qu'il est disponible, Alain Vigneault, à l'heure actuelle, disons là, que tu nommes Alain Vigneault. Pour Martin Saint-Louis, est-ce que ça devient un poids d'avoir un gars de même qui a dirigé beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale? Est-ce que ça devient peut-être pas une menace, mais du moment que ça va mal dans l'équipe, est-ce qu'il y a des gens qui vont commencer à dire, ben écoute, c'est peut-être l'entraîneur associé qui devrait diriger l'équipe? Stéphane?
Ben moi, écoute, ça dépend qui. Puis c'est un gars qu'il faut que tu choisisses. Style un Rick Bowness qui était très longtemps adjoint. Mais lui, il a le profil pour faire ça. Il a fait les deux, puis il était très bon. Mark Crawford, qui était très bon avec les Blackhawks dans les trois dernières années, au dire de mon frère qui était là, qui était excellent comme adjoint à Carliston et à Derek King l'année passée.
Ça, c'était deux entraîneurs recrues, justement, Carliston et Derek King. T'sais.
Exactement. Donc. Et puis, mon frère Jimmy, il m'a dit comment que Mark Crawford a aidé ces gars-là, et beaucoup, ça dépend, tu sais, on va dire un Alain Vigneault, il n'y a pas le profil d'un assistant, je ne le vois pas.
Non, c'est
assistant.
Vrai, c'est vrai.
Mais ça dépend, il y a des gars, là, puis je viens d'en nommer deux, là, un gars comme Mark Crawford ou un gars comme Guy Boucher. Un gars comme Guy Boucher qui aurait le profil qui serait très bon au niveau d'aider Martin, au niveau des expériences. Je parle de Rick Bowness qui l'a fait longtemps assistant coach, et puis c'est le genre de profil-là qui des gars qui sont low profile, mais qui sont tellement importants pour le coach, l'entraîneur en chef, spécialement un entraîneur en chef recrue.
Parce que là, ce qui est fou aussi, c'est que, tu sais, oui, ils sont tous sans expérience, mais tu sais, c'est également tous des gars de la même génération. Tu sais, ça aussi, c'est pas mauvais d'avoir ça, d'avoir une voix d'une autre génération, tu sais, d'avoir un gars qui est peut-être 15 ans plus vieux que les autres. Tu sais, c'est toutes des choses
exact.
Qui peuvent.
Un Kurt Muller.
Ben, c'est ça, exactement. C'est ça.
J'irais même bon jusqu'à un Clément Jourdain, qui est très low profile, mais qui l'a vu, puis qui l'a vu. Dave King, c'est tous des gars qui ont des valeurs inestimables pour un entraîneur-chef et encore une fois, spécialement un entraîneur-chef recrue.
Et ça pourrait permettre à Martin Saint-Louis de ventiler un peu en toute confiance. Parce que, non, mais t'en parlais, c'est tellement important quand t'es gestionnaire, là. Une fois de temps en temps, tu as le goût de te vider le cœur, mais il faut que tu le fasses à une personne en qui tu as pleine confiance. Tu sais que cette personne-là ne trahira pas ce que tu vas lui dire, ne trahira pas les secrets. Puis ça fait du bien, ça fait du bien. Puis après ça, tu es un peu régénéré, puis tu dis, bon, regarde, là, je repars pour ma journée de demain. C'est important, ça aussi. Je ne sais pas si Martin Saint-Louis a ça dans son entourage immédiat, parce que justement, c'est d'autres gars qui sont un peu comme lui qui en sont à leur premier pas. Hein.
Ben oui, c'est ça. Puis ça inclut même, j'allais même ajouter, ça inclut quand on parle de ces nouveaux visages-là. Adam Nicholas, l'entraîneur des habiletés, l'entraîneur du développement hockey. Mais bref, je l'inclus là-dedans parce que c'en est un qu'on voit souvent sur la patinoire pendant les séances d'entraînement aussi. Et c'est un autre gars, lui aussi, qui est de la même génération que les autres et qui est sans expérience au niveau de la Ligue nationale. Donc,
aller jusqu'à Kent Hughes.
Oui, tout à fait. Ben oui. Kent Hughes, il y a une forme d'expérience en soi qui est d'avoir été agent pendant 25 ans. Là, c'est pas rien comme forme d'expérience, mais ça reste qu'entre être agent puis diriger une organisation avec tout ce que ça implique, ben c'est ça, c'est deux expériences. Donc, c'est sûr que oui, t'as Jeff Gorton au sommet de tout ça, que lui, oui, il en a du vécu. Ça fait depuis 30 ans qu'il est dans les équipes de la Ligue nationale. Donc, lui, il n'y a aucun doute. Mais c'est ça, lui, Martin Lapointe, mais après ça, c'est beaucoup plus mince comme expérience
Peut-être que c'est correct aussi tout ça. Peut-être qu'on se dit, regardez, on a des jeunes d'expérience, on a des des jeunes sans expérience et des coachs sans expérience. Puis tout ce monde-là vont monter ensemble, vont prendre l'expérience ensemble. Et puis peut-être c'est la façon qu'on le voit aussi.
C'est certainement en tout cas de matière à réflexion pour la direction du Canadien. Peut-être que pour cette année, il est trop tard, là.
Ben,
mais
ouais,
peut-être la saison prochaine.
C'est ça.
Je veux vous amener sur un autre sujet. On le sait tous, la date limite des transactions dans la Ligue nationale, c'est le 3 mars. Et puis, beaucoup de gens, dont moi, pensent que le Canadien va essayer de se libérer de plusieurs contrats. On parle de Drouin, on parle de Dadonov, on parle de Hoffman, Monahan. Sauf que là, il y a peut-être encore Monahan qui a de la valeur, mais compte tenu du rendement vraiment désastreux de l'équipe là, au cours des dernières semaines. Est-ce qu'il va y avoir un marché pour Jonathan Drouin, pour Eugenie Dadonov, pour Mike Hoffman, Stéphane?
Pars sur Mike Hoffman, Stéphane. Comment par Mike Hoffman? On ira aux autres après. Là.
Ben, Mike Hoffman, je pense que oui.
Oh.
Il reste quand même deux saisons. Il y a quand même 7 buts cette saison. Il y en a des pires. Une équipe qui a besoin d'un spécialiste sur l'attaque à 5. Là, les allez me dire, ouais, mais il n'est même pas capable de le faire à Montréal. Mais je pense que mieux entouré, il est quand même un gars qui est dangereux sur l'attaque à 5. Donc, il peut avoir une certaine valeur. Mais Joe, malheureusement, Joe et puis Dadonov, Wideman, pour moi, ça a zéro valeur. Et puis, écoute, là, il va rester une moitié de saison là, dans quelques matchs. Donc, on va falloir accepter de vivre avec. Il va finir son contrat, le contrat Montréal, et puis ça va être la fin. Mais pour moi, là, tu as Hoffman qui a une certaine valeur, puis je vois là, très prudemment. Monahan qui en a une certaine. Bon, pensez pas d'avoir la lune quand même, parce que c'est un gars qui, depuis les dernières années, est toujours blessé. Et c'est un gars aussi qui va être à re-signer l'année prochaine. Donc, l'organisation, c'est une location de quelques mois là, qu'on va aller chercher. Et l'autre que j'aime bien pour le marché des échanges, c'est Joel Edmundson, qui a une saison terrible en passant jusqu'à date. Là. C'est le pire.
Belle valeur en perspective sur le marché des transactions.
Il y a une saison terrible jusqu'à date parce que seulement en 28 matchs, il a manqué 10 matchs pour une blessure au début de la saison. Il est le pire du Canadien au niveau des plus et des moins à moins 15. Et ça, c'est seulement en 28 matchs. Et puis, il a l'air d'un gars qui est tout le temps, qui prend jamais le bon, son homme devant le filet. Surtout à son physique, il a l'air tellement mêlé. Mais Joel Edmundson, c'est dans les trois vétérans qu'on a en défense, c'est le seul que j'échangerais. Je voudrais garder un gars comme Savard parce qu'il est bon pour les jeunes et j'aimerais garder pour Matheson parce qu'il a un bon contrat et il reste beaucoup de bonnes saisons. Mais Joel Edmundson, il a une valeur dans le sens que il a gagné une Coupe Stanley. C'est un vétéran qui est un bon leader et c'est un gars pour une équipe qui veut avoir de la profondeur sur une troisième paire, c'est le gars qui peut faire un très bon travail.
Oui, parce que dans une bonne équipe, c'est ça. Tu le mets un troisième duo,
ouais.
Spécialiste du désavantage, tu le montes dans ton deuxième duo si t'es un blessé. Je pense qu'il peut te faire un très bon travail. Puis d'ailleurs, l'année où le Canadien s'est rendu en finale, c'était ça son rôle. Tu sais, il était un rôle de deuxième duo. Tu avais Weber, Sherrod sur le premier duo et tu avais lui comme complément de Jeff Petrie dans le deuxième duo. Puis ça avait très bien fonctionné. Puis tu sais, il avait été très, très stable cette année-là. Donc, tu sais, je pense que c'est peut-être pas nécessairement non plus un mauvais 28 matchs, ce qu'il est en train de connaître cette année, tu sais, qui va non plus complètement, je pense, effacer sa valeur auprès des DG. Je pense qu'il y a bien des DG qui sont conscients que dans un environnement plus structuré, plus positif, il y a moyen là, qu'il soit ce défenseur-là qu'on a vu au printemps 2021 ici à Montréal. Donc, oui, tout à fait. Pour Monahan, moi, c'est juste que je reviens me poser la question. Par exemple, oui, il est tout le temps blessé. Oui, il a souvent été blessé. Par contre, sa blessure actuelle, c'est pas la même que celle qu'il avait. C'est pas une blessure aux hanches, donc c'est pas le même problème. Et à voir comment le Canadien s'est effondré et à voir comment le Canadien n'a rien d'autre au centre quand il est absent, ben, je me demande juste dans quelle mesure que le Canadien peut réellement se passer de Sean Monahan. Si tu l'échanges, Sean Monahan, ben, faut que tu en trouves un autre cet été. Sinon, l'an prochain, t'arrives, t'es pas plus avancé parce que la relève.
Ouais, mais est-ce que tu veux lui donner un gros contrat de plusieurs années? Ça, c'est le problème aussi. Ça, lui, il va vouloir 5 ans plusieurs millions.
Tout dépend, c'est ça. Donc, tout dépend de ce qu'il souhaite obtenir. Mais je veux dire, ça reste que t'as quand même le problème de trouver un gars comme lui si tu le perds parce que Christian Dvorak comme deuxième centre, ça marche pas. Jake Evans, au-delà du quatrième trio, ça marche pas non plus. Puis c'est ça, je veux dire, tes meilleurs espoirs au centre, c'est Philippe Mecher, Owen Beck. Les deux, je crois pas qu'ils soient prêts à jouer dans la Ligue nationale l'an prochain, ou s'ils le sont, ça serait dans un rôle limité.
Puis le danger aussi, de ces transactions-là... Oui, vas-y, Stéphane.
Excuse, juste en terminant pour les centres, ça, c'est à condition qu'on décide que Kirby Dach, c'est un ailier.
Oui, exact, ouais. Exact. Mais je veux dire, tu le vois comme moi, mais je veux dire, je trouve que moi, que c'est vraiment clairement à l'aile que ça fonctionne. Au centre, on dirait que peu importe les combinaisons, ça fonctionne pas. Et surtout, je pense qu'en début de saison, on a peut-être sous-estimé l'impact qu'il y avait sur Suzuki et Caulfield, parce que les matchs où ce trio-là fonctionne, moi, je trouve que ça passe beaucoup par Kirby Dach, par son travail avec la rondelle, par sa portée, sa protection de rondelle, tout ça. Moi, je trouve que plus je regarde les choses aller, plus je me dis que ça va être difficile de le placer au centre de façon permanente.
Je veux revenir sur les transactions de la date limite, là, parce que souvent, on s'emballe quand le Canadien effectue une transaction. Je me souviens l'an dernier, quand Arturi Lekkonen a été cédé à l'Avalanche du Colorado, beaucoup de gens ont applaudi en deux mains en disant que c'était presque un vol de la part du Canadien. Tu laissais aller Lekkonen pour obtenir Justin Barron, choix de première ronde. Il y avait plus de misère à se tailler une place au Colorado parce qu'il avait été tellement dans une bonne équipe. C'était vraiment un défenseur d'avenir pour le Canadien. Stéphane, est-ce qu'on a la même lecture un an plus tard ou presque là, de Justin Barron?
Moi, oui. Encore un an plus tard, je crois que c'est encore une très bonne transaction. Puis on oublie aussi le deuxième choix. Un deuxième choix.
Ouais, le Canadien a obtenu un deuxième choix au repêchage de 2024.
24,
exactement. Ouais. Puis un deuxième choix, tu as des Debrincat qui ont été repêchés deuxième, Carter Hart, Samuel Girard, Alex Romanov, Shane Pinto, des Kucherov, des Toffoli.
Oui, mais là je te parle pas, Stéphane, je te parle pas du joueur qu'on connaît pas en 2024. Là, je te parle de Justin Barron, celui
mais
qu'on connaît.
Ça peut devenir toute une transaction, mais ça va prendre du temps. Puis Justin Barron, là, il a 21 ans, un défenseur. Et puis, il a tout. Il patine bien, un bon lancer, un bon gabarit. Ça va prendre 2, 3, 4 ans. Mais je persiste à dire que Justin Barron va jouer longtemps dans la Ligue nationale. Et puis, dans quelques années, Lekkonen va être à la retraite. Donc, ça va être une très, très bonne transaction. Moi, j'adore encore la transaction un an plus tard, même si Lecky va très bien au Colorado, même si Lecky a gagné la Coupe Stanley. Ça, c'est le genre d'échange, pour moi, qui est bonne pour les deux équipes.
Guillaume, es-tu aussi optimiste sur la suite des choses que notre ami Stéphane?
Ben, pas tout à fait. Je veux dire, mais par contre, oui, je reconnais que Barron a le temps de tout à fait. On est loin de voir le produit fini.
Une mauvaise semaine ne définit pas un jeune homme qui commence à la Ligue nationale. Je suis d'accord avec
non,
ça.
Non, c'est
aussi.
Ça. Exact. Une mauvaise semaine, ben, tu sais, je veux dire, disons, de façon générale, c'est sûrement pas l'année qu'il souhaitait. Il y a eu un camp très ordinaire aussi. Mais c'est ça. Ça reste que c'est pas un produit fini. Par contre, je veux dire, quand une transaction comme ça se fait, tu te dis tout le temps, OK, bon, ben, en même temps, tu sais, Lekkonen va devenir joueur autonome dans un an, tout ça. Mais l'Avalanche, de son côté aussi, a bien rentabilisé cette transaction-là en donnant un contrat de 5 ans à Lekkonen à un chiffre quand même très raisonnable de 4,5 millions. Je veux dire, pour la valeur qu'a ce joueur-là et sachant qu'il continue à en donner offensivement cette année, le plus que ce qu'on a connu à Montréal, ben, je veux dire, l'Avalanche, de son, en tout cas, si ça peut être une bonne transaction pour le Canadien, c'en est assurément pas une mauvaise pour l'Avalanche parce que, bon, comme on a dit tantôt, oui, il a gagné la coupe, mais il continue à en donner et il va le faire à un salaire très, très, très raisonnable dans les paramètres de la convention collective. Donc, tu sais, ça de ce côté-là, oui. Mais c'est ça, disons que pour le moment, en tout cas, j'aime plus la transaction du point de vue de l'Avalanche que du point de vue du Canadien, mais c'est vrai qu'il est beaucoup trop tôt avant de dire que le Canadien s'est fait rouler dans la farine.
OK, on s'en parle.
L'Avalanche est très heureux en ce moment Et le Canadien va être très heureux à un moment donné.
OK, on s'en parle dans 5 ans, Stéphane, quand Lekkonen va être à la retraite puis Justin Barron sera candidat au Trophée Norris.
Je prends ça en note dans 5 ans, on parle. Okay.
Exactement. OK, on fait une petite pause, on revient et on va parler de Connor Bedard.
Ne manquez pas le balado « Relève-toi », présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
On est de retour au balado aux sorties de zone. Philippe Quentin en compagnie de Guillaume Lefrançois de la presse, Stéphane Wade du 98.5. Les gars, faut parler de la vedette de l'heure dans le hockey. Et ce joueur-là, cette vedette ne joue pas dans la Ligue nationale. Il joue dans le hockey junior. C'est Connor Bedard. Faut préciser, là, on fait ce balado, on enregistre ce balado en après-midi, le jour de la demi-finale. Alors, dans quelques heures, le Canada va jouer contre les États-Unis. On ne sait pas encore quelle sera la performance de Connor Bedard. Mais Stéphane, déjà, on sait que là, l'affaire est réglée. Il sera le premier choix au repêchage dans la Ligue nationale de hockey à la prochaine séance de sélection.
J'espère que oui. Mais écoute, quel spectacle qu'il nous donne. C'est incroyable. Il fait. Je regardais le dernier match contre la Slovaquie où ce qui s'était supposé. Pas une marche dans le parc pour le Canada, mais proche. Slovaquie qui a donné toute une performance contre le Canada, mais le gars, il s'est levé quand c'était le temps. Le petit Bedard, incroyable. Il donne tout un spectacle. Il m'impressionne. On savait qu'il était bon, mais il est encore meilleur que je pensais il y a une dizaine de jours. Donc, en plus, il fait quand que ça compte. Et dans les gros matchs.
Voilà, bon point.
Très impressionnant, impressionnant.
C'est ça, parce que c'était... Puis je trouve que son match contre la Slovaquie, justement, c'était important parce qu'avant ça, il avait accumulé quand même beaucoup de points dans des matchs, dans des matchs à littéralement à sens unique, là, tu sais. Et là, tu arrives contre la Slovaquie et globalement, le Canada n'a pas non plus nécessairement joué son meilleur match. Sur papier, le Canada devrait battre la Slovaquie de façon beaucoup, beaucoup plus convaincante. Mais Connor Bedard, lui, a pas lâché du match. Là, il a eu le pied sur l'accélérateur tout le long. Puis sa performance en prolongation, je sais que c'était du hockey 3 contre 3, mais quand même, c'était complètement fou de le voir aller. Donc, c'est ça, de le voir se lever comme ça dans un moment où ça comptait, c'est là, je pense, qu'on voit un peu plus la valeur d'un joueur.
Il a été challengé par les Slovaques avant. Là, publiquement, les Slovaques ont dit « On va s'occuper de lui, on va le frapper, on va finir nos mises en échec. » Et puis, ils l'ont dit ouvertement avant la partie. Donc, il s'est levé comme Guy Lafleur s'est levé quand John Wensink qui avait dit qu'il arracherait la tête.
Oui. Alors, juste pour rappeler, là, c'était dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. John Wensink, c'était le matamor des Bruins de Boston, un gars qui se battait à tous les matchs, qui était dur. C'était incroyable. Et là, il avait dit justement qu'il allait arracher la tête de Guy Lafleur. Guy Lafleur s'en va jouer au Garden de Boston. Ce match éliminatoire, je pense qu'il a terminé avec 2 buts, 2 passes dans une victoire de 4-2 du Canadien. Là, de mémoire, ça s'est produit comme ça. C'est pour ça que Guy Lafleur était Guy Lafleur et oui. Connor Bedard prend les moyens pour être un Connor Bedard. Donc, tu l'appelais tantôt le petit Bedard, Stéphane. J'ai l'impression que bientôt, on va dire le grand Bedard.
Oui, exact. Le petit au niveau de son âge, mais c'est tout ce qu'il est petit.
Voilà. Bon, et tout ça amène la grosse question. Toutes les équipes de la Ligue nationale salivent à l'idée de repêcher Connor Bedard. Alors, il y a tout le temps cette notion-là. Est-ce que les équipes vont tanker, c'est-à-dire échanger leur meilleur joueur le plus vite possible couler au classement pour augmenter leur chance de repêcher Connor Bedard. Comment tu vois la situation évoluer là, sur ce plan-là, Guillaume, au cours des prochaines semaines?
On dirait que les équipes se cachent de moins en moins. Je sais pas. J'écoutais l'entrevue de Kent Hughes à RDS pendant une entraque du match d'hier à Nashville. Puis, il n'y a jamais aucun moment où il dit ça fait notre affaire de perdre tout ça, mais je veux dire, je sais pas, des fois dans le ton, dans l'expression, tout ça, ça donne pratiquement l'impression que tu sais, finalement que tout ça fait leur affaire et qu'ils savent bien qu'ils vont trouver leur compte au mois d'avril quand viendra le temps de la loterie. C'est sûr que comme administrateur, c'est je peux comprendre la tentation de laisser les choses aller justement en attendant pour terminer la saison. Puis en se disant que regardez justement là, advienne que pourra, puis si on a une séquence de défaites, ça va juste augmenter nos possibilités, il y a aucun doute. En même temps, c'est pas nécessairement, je trouve que pour la ligue c'est pas quelque chose qui est très bon, par exemple, parce que ça donne, tu sais, le genre de spectacle comme on a vu dans les derniers jours, c'est pas très bon. Puis si cet esprit là de vouloir couler au classement, ben ça donne des spectacles comme on les a vus cette semaine, pour le produit de la ligue là, je me questionne, tu sais, je me demande dans quelle mesure c'est dans l'intérêt de la ligue là, tu sais, de laisser les choses aller. En même temps, t'as pas des tonnes d'outils là comme ligue. Je veux dire, les équipes habillent, tu sais, emploient quand même 18 joueurs de ligue nationale qui ont deux jambes, deux bras, puis tu sais, c'est pas, t'as quand même des moyens limités, mais il y a une espèce de mentalité derrière ça qui est malheureusement, en tout cas, j'espère qu'on verra pas trop de ces matchs à sens unique justement d'ici la fin de la saison.
Et t'as des équipes qui sont pas bonnes, même les années où il y a pas de Connor Bedard au repêchage. Il y en a toujours qui finissent avec 30 points au classement, ou un peu plus, ou un peu moins. Toi, Stéphane, comment tu vois la situation?
Ben écoute, c'est sûr qu'il y a entre guillemets une course au choix du premier choix au repêchage, ou la course de Connor Bedard, comme on l'appelle. Mais je vois pas, en ce moment, je vois pas beaucoup d'équipes qui... Ça va se passer, ça se passe dans les bureaux si on veut finir le plus loin possible dans le classement, pas sur la glace et pas en arrière du banc. Les entraîneurs puis les joueurs, eux autres, je peux vous dire une affaire, ils veulent gagner à tous les soirs. Et puis ça, il n'y a rien qui va me faire convaincre du contraire, que ces gars-là, ils ont une fierté, les coachs veulent gagner, les joueurs veulent gagner. Donc, c'est une game, en guillemets, qui se joue dans le deuxième étage pour dire, regarde, nous, là, on va liquider tel joueur, on va bâtir pour l'avenir. Ça, c'est correct. C'est correct aussi. Mais au niveau de la glace, puis en arrière du banc, c'est pas une game qui se joue à ce niveau-là, de dire, regarde, on va finir plus loin possible pour essayer d'avoir le jeune Bedard. Les joueurs, là, ils veulent rien savoir de finir dernier.
De toute façon, les joueurs, tu sais, ça là-dessus, je te rejoins 100% là, que ça se passe dans l'administration, parce qu'en plus, prends l'équipe du Canadien en ce moment, et combien de joueurs dans cette équipe-là vont être là au moment où le joueur que le Canadien va repêcher au premier tour cette année, là, que ce soit Bedard ou un autre, mais au moment où ce joueur-là va être à maturité et en position de vraiment faire une différence avec le Canadien, combien des joueurs de l'édition actuelle vont être encore là? Il va rester qui? Suzuki, Caulfield, Goulet, Jack Harris, tu sais,
ça va se limiter pas mal à ça.
Il y en a une méchante gang là-dedans qui seront plus là de toute façon. Là,
puis les autres, ils vont avoir une carrière, eux autres. Là. Ils veulent
signer un nouveau contrat. Puis,
Donc, cette guerre-là à Connor Bedard, elle joue au deuxième étage de chaque équipe et non sur la glace. Puis en arrière du bain, ça, j'en suis convaincu.
Ben, c'est sûr, c'est à l'administration de penser à moyen et long terme. Ouais. Sauf évidemment, si tu as une équipe qui peut gagner la Coupe Stanley, là, tu vas peut-être faire une transaction à la date limite pour aller combler un besoin précis pour augmenter tes chances, mais quand tu as une équipe de bas de classement, l'administration pense à long terme. Ben oui, c'est ça. Puis le coach, lui, comme tu le dis, il veut gagner. Le Martin Saint-Louis, là, il veut pas perdre ses 10 prochains matchs. Là. Il a pas le goût de se retrouver avec quoi? Il est 1-8-1 dans les 10 derniers. Il veut pas que ça soit 1-18-1 dans les 20 derniers. Là.
Exact, hein? Exact. C'est lui qui est dans le vestiaire au quotidien, puis qui essaie de, comme n'importe qui, je pense que tu vas avoir une belle ambiance au travail, puis tout ça. Puis bon, je veux dire, je pense.
Non, je l'ai vécu avec les Blackhawks.
Comment c'était, Stéphane, vivre ça?
Parce qu'on était dans la course pour Patrick Kane, et puis jamais on a mentionné Patrick Kane au niveau d'Atlas ou dans l'espace des entraîneurs. Jamais, jamais, jamais. Je me souviens de cette saison-là. Les joueurs ne veulent pas finir dernier. Les joueurs, comme tu dis, on se bat. Il y en a qui se battent pour des contrats. Il y en a qui se battent pour une place dans la Ligue nationale. Les vétérans qui ont du caractère haïssent perdre, ils veulent pas perdre. Les entraîneurs qui essayent de garder leur job, ils veulent pas perdre. Donc, il n'y a pas personne qui veut perdre. Donc, ça, on n'en parle pas au niveau de la patinoire. Comme je dis, c'est un job. Puis c'était la même chose à Chicago, ce que c'était Dale Talon qui avait échangé nos vétérans en fin de saison. C'est le game à eux autres au deuxième étage. Au niveau d'Atlas, on peut faire tout pour gagner.
Et il faut que tu fasses attention parce que là, je comprends. Connor Bedard, c'est un cas à part. Là. C'est probablement un joueur qu'on qualifie de générationnel. Mais je me souviens, il y a quelques années, là, avec les Oilers d'Edmonton qui ont repêché Neil Yakupov, il y avait même le fameux slogan « Fail for Neil ». Il faut faillir comme équipe pour aller chercher Neil. Oups, disons que ça n'a pas trop résisté au passage du temps. Ça n'a pas été une situation gagnante parce que Neil Yakupov n'a fait que passer dans la Ligue nationale. Tu parles des Blackhawks, Stéphane. Les Blackhawks sont quand même des atouts entre les mains en vue de la date limite des transactions. Le Canadien, on le sait, là, c'est pas, tu sais, on parle d'Edmondson qui est peut-être la meilleure carte à jouer avec Monahan s'il retrouve la santé. Mais les Blackhawks, eux, ils ont Patrick Kane, ils ont Jonathan Toews. C'est une situation un peu différente, là. Ils ont peut-être des cartes à jouer sur le marché des transactions.
Exactement. Puis, écoute, en ce moment, je pense qu'ils ont entrepris cette loterie-là, eux, l'été passé, quand ils ont allé chercher deux gardiens de but, là, qui est pour moi là, terrible, là, Alex Stalock et Peter Mrazek. Et puis, le plan fonctionne jusqu'à date parce que ce studio-là est terrible. Et ils ont liquidé Debrincat. Ils sont débarrassés de Kirby Dach. Ils se sont débarrassés de Hagel, la période des transactions. Ils se sont débarrassés d'à peu près tout ce qui avait de la valeur. Et maintenant, ils sont rendus à Toews puis Kane. Sauf que, qu'est-ce que j'entends de Chicago en ce moment? C'est que Patrick Kane aimerait rester à Chicago, même dans une reconstruction. Et puis, ce gars-là, il est attaché à la ville de Chicago. Il adore la ville de Chicago. Et puis, c'est ce que j'entendais. Ça ne veut pas dire que les Blackhawks vont le garder, mais Patrick, lui, aimerait rester à Chicago. C'est différent pour Jonathan Toews, où ce que lui, quand il perd, il ne dort pas. Donc, il a pas dormi souvent cette saison.
Il doit pas dormir beaucoup.
Non, c'est ça.
Donc, il a pas dormi beaucoup cette saison. Et puis, lui, c'est différent. C'est un gars qui, puis je dis pas que Kainer aime perdre. Il aime pas ça. Mais, Jonathan Toews, lui, en fait une maladie de perdre. Et puis, lui, je sais qu'il aimerait avoir sa chance ailleurs. Et, après ça, mais, il reste un gars qu'on parle pas souvent. Il est deuxième marqueur. Il a une très bonne saison, Max Domi. Le bon vieux Max Domi, qui est deuxième marqueur des Blackhawks. C'est un gars qui va avoir une valeur. C'est un gars qui devrait partir à la période des échanges. Mais après ça, il reste plus grand chose. Il reste un Andreas Anastasios qui peut aider une équipe au niveau de la profondeur. Jack Johnson, qui peut aider une équipe au niveau de profondeur défensive. Tyler Johnson, un 3 ou 4e centre maintenant dans la Ligue nationale, qui peut aider une équipe. C'est ce qui reste. Après ça, il n'y a plus rien.
Non,
il n'y a absolument plus rien.
Guillaume, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un gros marché pour Jonathan Toews? C'est dur à dire. Hein?
Ben, en fait, moi, je pense que non, parce que c'est vraiment le problème de la valeur du contrat. C'est à court terme. Il n'y a aucun problème. Toutes les équipes paieraient. L'argent, c'est pas un problème, mais de rentrer ça sous le plafond salarial, une valeur annuelle de 10 millions et demi. C'est sûr que s'il y a un échange, ça va passer par il va y avoir un intermédiaire, là, c'est-à-dire une équipe qui va accepter une partie du contrat à Toews. À Toews, donc, avant de le refiler à l'autre équipe, là. Ça, je suis absolument convaincu que s'il y a une transaction, ça va passer par ça. Donc, tu sais, je pense que Chicago va devoir retenir une partie du salaire. Un tiers parti va retenir une autre partie du salaire. Et, question de diminuer le plus possible, mais ça reste que c'est ça, on n'arrête pas de le dire, mais ce qui a le plus de valeur en ce moment, c'est d'avoir de l'espace sous le plafond salarial parce que personne n'en a. Beaucoup d'équipes qui opèrent vraiment à la limite, qui sont étranglées à la gorge. Donc, de rentrer ce contrat-là. J'ai vraiment de la misère à m'imaginer qu'il y a 6 ou 7 équipes qui vont réellement avoir la possibilité de le faire.
Mais sur le plan hockey?
Sur le plan hockey, je pense que oui. Je pense que la réputation, même s'il n'est plus le joueur qu'il était, je veux dire, la réputation qu'il a, comme Stéphane dit, il dort pas quand il perd. Le leadership, exact. Puis, je regardais un peu à la Coupe du Monde de 2016, je m'étais amusé à sortir un peu tout le palmarès de Jonathan Toews parce que tout ce qu'il faisait à ce moment-là, tout ce qu'il avait connu, c'est la victoire. Puis, donc ça, en date de 2016, il y avait 3 Coupes Stanley, 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques.
4 fois championnat du monde avec le Canada, championnat des moins de 17 ans, 2 fois dans le Frozen Four, qui est le tournoi universitaire américain. Mm. Je veux dire, à tous les niveaux, il a gagné, même au secondaire à Chateauguay-Sainte-Marie. Donc, lui, c'est un gars qui, avant d'arriver à la Ligue nationale, gagnait partout où il allait. Puis, c'était pas un hasard, là. Il gagnait pas en tant que joueur de profondeur, il gagnait tout le temps en tant que meneur de ces équipes-là. Donc, tu sais, j'ai aucun doute qu'il y a plein d'équipes qui le prendraient là, comme centre de troisième trio.
Stéphane, quelle équipe aurait avantage à aller chercher Jonathan Toews?
Toutes les équipes qui croient avoir une chance, ouais, de gagner la Coupe Stanley. Et puis, c'est parce que c'est pas juste au niveau des buts puis des passes, comme on a... Comme Guillaume parle, c'est au niveau du leadership qui est incroyable dans la chambre. C'est au niveau des mises au jeu. C'est au niveau où il joue sur le désavantage numérique. Il joue sur l'avantage numérique. Et cette saison, il a retrouvé un petit peu de sa magie, là, parce que l'année passée, une année très difficile après avoir manqué un an à cause d'un virus. Mmh. Et puis, il a retrouvé ses ailes cette saison. Mais écoute... J'imagine une équipe comme la Caroline qui pourrait être super intéressée. Une équipe comme les Bruins qui pourrait être intéressée. Peut-être une équipe comme Edmonton qui pourrait être le genre de joueurs qui ont besoin, mm-hmm, ce gagnant-là qui ont peut-être pas en ce moment, même s'ils ont une très bonne équipe. Donc, il va y avoir une demande, puis c'est beaucoup plus que des points, ce gars-là. C'est incroyable.
Bon, ben alors, on va suivre ça. Ça va être assez intéressant. Moi, je vous dirais qu'à court terme, le 3 mars, c'est l'avenir de Jonathan Toews m'intéresse. Ouais. Guillaume, pour toutes les raisons que tu as mentionnées, ce gars-là est un gagnant. C'est un joueur extraordinaire. Il a gagné des Coupes Stanley. Alors, je lui souhaite, un peu comme je souhaitais à Carey Price, de gagner un jour une, ouais, Coupe Stanley. dans le cas de Toews, en gagner une autre, bien sûr, Price aurait été une première. OK, on fait une pause, puis quand on revient, on parle d'un autre dossier chaud dans la Ligue nationale, celui d'Alexis Lafrenière avec les Rangers de New York.
On est de... Ne manquez pas le balado Relève-toi, présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
Retour au balado Sortie de zone. Philippe Quentin en compagnie de Guillaume Lefrançois et Stéphane Waite. Les gars, ça a été très difficile au cours des derniers jours pour Alexis Lafrenière, qui est un ancien premier choix au repêchage par les Rangers de New York. Il a même été carrément mis de côté pour un match. Quand il joue au sein d'un troisième, d'un quatrième trio, une poignée de minutes par match. Il arrive quoi avec lui, Stéphane?
Wow, c'est pas cette troisième saison déjà. Mais, j'ai le gros mais, 21 ans. 21 ans, c'est tellement jeune pour un joueur de hockey. Mais c'est une année difficile. C'est une année où Lafrenière, il joue avec une équipe, premièrement, qui aspire à certains succès, contrairement à, supposons, un Slavkovski à Montréal, où, ouais, on va y ficher à la paix, peu importe comment que ça va, parce que c'est une équipe où on développe.
Série.
C'est un contexte complètement différent. Et puis, je connais très bien son entraîneur, Gérard Galland, puis on est même encore en contact de temps en temps, là, par texto. Gérard, c'est un gars qui est très, très dur envers ses joueurs. Lui, c'est bien dur. Je sais pas si on appelle ça dur ou honnête. Tu y en donnes, il va t'en donner. Et puis, il ne manquerait pas mieux que voir Lafrenière avoir du succès. Et puis, je sais qu'il aime le jeune, mais... Ça vient des deux bords. Il faut qu'il en donne. Donc, c'est peut-être juste un wake-up call parce qu'à part ça, il a manqué qu'un match ce dernier. Et puis, il a joué tous les autres matchs cette saison. Mais c'est une très, très, très bonne question. Qu'est-ce qui se passe avec Lafrenière? Je ne sais pas. Je ne vois pas assez des matchs, mais je peux te dire une affaire. Un gars comme Gérard Galland, est très demandant sur ses joueurs.
J'ai hâte de voir, là, c'est eux qui s'en viennent au Centre Bell, d'ailleurs, pour le match de jeudi, de demain. Tu sais, il l'a ramené dans la formation, il était de retour au jeu cette semaine, moins deux hier. Tu sais, hier, fini à moins deux dans une victoire de 5-3, c'est jamais très, très positif, là, comme fiche, 13 minutes de jeu. Donc, tu sais, c'est sûr que clairement, il y a du travail à faire, là, pour revenir dans les bonnes grâces de l'entraîneur. C'est drôle, par exemple, ça m'amusait de voir que Philippe Ritil, Chitil, bref, le numéro 72 qui était dans le même trio que lui. On le sait, pendant les séries l'an passé, Gérard Gallant avait formé une espèce de kid line, là, un avec trio de jeunes. Exactement, avec Capo Caco. Et, ben, tu sais, lui aussi, Chitil, hier, joué 9 minutes, moins 2 lui aussi. Donc, tu sais, oui, il y a eu des points, mais bon, je veux dire, ça reste que, je pense que, tu sais, comme tu dis, Stéphane, je pense que Gérard Gallant peut être un entraîneur très exigeant, tout ça. C'est pas toujours facile avec des jeunes. Puis d'ailleurs, tu sais, avant d'être avec les Rangers, ben son expérience précédente, c'était à Vegas où il y avait justement pas beaucoup de jeunes non plus. T'sais, on le sait, Vegas, c'est une équipe quand même qui était formée autour d'un noyau de vétérans. Donc c'est peut-être le type d'entraîneur qui fonctionne mieux avec des vétérans qu'avec des jeunes. Et puis là, ben c'est ça. T'as les Rangers de New York qui est une équipe, pas une équipe nécessairement, qui est pas une vieille équipe, mais qui a beaucoup de joueurs dans la force de l'âge qui ont quand même pas mal d'expérience. Et donc, tu sais, je veux dire, il y a ce groupe-là de vétérans, puis ben il doit essayer à travers tout ça de développer Lafrenière, finalement, puis ça se passe pas nécessairement de la meilleure façon.
C'est dur de briller aussi. Ouais, c'est ça, des jeunes joueurs. Puis je regarde à New York, là, dans un autre sport où on a beaucoup parlé du jeune carrière des Jets de New York, Zach Wilson, qui en est tout aussi à sa troisième année. Ouais. Ça n'a pas été un succès. Il a même fait une gaffe tout à coup dans une conférence de presse par rapport à ses coéquipiers. Puis là, j'entendais son entraîneur Robert Saleh qui disait cette semaine, oublions pas qu'il y a encore, quoi, je pense que 21, 22 ans, là, dans son cas. Puis tu le mentionnais tantôt, Stéphane, puis c'est vrai qu'on est impatient avec les jeunes joueurs. D'un autre côté, il faut qu'ils en donnent, il faut qu'ils répondent aux attentes en partie, là, qu'on a placées en eux. Ils feront pas ça d'un seul coup. Mais c'est dur de s'imposer. Et je regardais dans le marché de New York, je suivais les articles, là, ça a été joué gros dans les pages réservées au hockey, là, le cas de Lafrenière. Il est un peu sur la sellette là-bas.
Exactement. Oui. Puis c'est ce que j'étais pour dire, c'est qu'il faut pas oublier qu'il joue dans un marché qui est pas facile aussi. Là. C'est quand même l'un des gros marchés au monde au niveau du sport, là, les New York. Et puis autre chose, il joue avec une équipe aussi qui a certaines attentes à cause de leur bonne saison de l'année passée. Donc, pour un entraîneur, c'est certain que lui, il peut être beaucoup moins patient avec les jeunes que Martin Saint-Louis peut l'être à Montréal. C'est complètement un contexte complètement différent. Mais je prône la patience avec Lafrenière, encore une fois, 21 ans dans la Ligue nationale, c'est tellement jeune.
Oui, tu as bien raison de le mentionner. Hey, j'ai le goût de conclure en vous posant une drôle de question, puis je le sais, là, je vous lance ça un peu une balle courbe.
C'est correct.
Broche des oreilles. C'est pas une rapide, mais c'est quand même...
Stéphane, c'est un bon joueur de balle, il est capable.
C'est ça, puis mais j'aimerais ça juste... Je vais vous donner 2 minutes pour y penser, là. Mais si on a la même conversation, on enregistre un balado le 4 janvier 2024, dans un an, jour pour jour, qu'est-ce que vous pensez qu'on va dire du Canadien? Le Canadien va en être où? Autrement dit, ma question, là, c'est qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec le Canadien au cours des 12 prochains mois? Là, je vous laisse y penser. Je vais juste mettre les choses en perspective. On va compléter. Il va y avoir la date limite des transactions. On va compléter la saison. L'équipe participera pas aux séries éliminatoires. Là, il va y avoir le repêchage, les joueurs autonomes. On va se retrouver pour le camp d'entraînement en septembre. Il va y avoir encore de l'enthousiasme. Il y en a chaque mois de septembre. Mais fondamentalement, est-ce que l'équipe va être beaucoup améliorée? Est-ce que la direction va avoir fait des gros coups? Qu'est-ce qui va se passer? Je demande de sortir un peu votre boule de cristal.
Ben, moi, je dis qu'on va le savoir dans 3 mois. Donc, je repousse pas éternellement la question, mais pourquoi dans 3 mois? Dans 3 mois, ça va être la fin de la saison. Rappelez-vous, la saison dernière, la saison, comment ça s'est terminé au Centre Bell? Ça s'était terminé dans des applaudissements. La foule qui criait Guigui parce que le Canadien avait marqué 10 buts dans le match, tout ça. Ça avait fini vraiment dans une fête qui avait, je pense que le message que ça envoyait à l'administration puis à Jeff Molson, c'était pas de presse, les gens sont patients, les gens vont être là. Si on finit l'année dans les huées et qu'il y a 5000 bancs vides au Centre Bell à tous les soirs,
j'ai une autre hâte de dynamique, voir si ce sera la même patience. Mais si ça se termine encore, tu sais, si le Canadien réussit à terminer la saison mieux que ce qu'on voit depuis trois semaines et que ça se termine dans du positif, je pense qu'à ce moment-là, je pense que ça va donner plus de lousse à Kent Hughes, à Jeff Gorton pour être vraiment patient avec le plan puis peut-être endurer une autre année difficile. Si par contre ça s'impatiente, puis si je mentionne l'impatience, c'est que avant le présent voyage là, du Canadien, ça avait commencé à huer au Centre Bell. On avait recommencé à entendre des huées, ce qu'on n'avait pas entendu depuis que Martin Saint-Louis est arrivé. Donc, si cette impatience-là se fait sentir autant de façon très irrationnelle, c'est-à-dire par des huées, que de façon plus rationnelle, c'est-à-dire des sièges vides dans l'aréna, ça pourrait changer la réponse à la question.
Intéressant. Et toi, Stéphane?
Ben, dans un an exactement, je vois l'équipe encore être en progression. Et puis peut-être avec moins, sûrement avec moins de mauvais contrats. On sait qu'un Dadonov sera plus là, probablement que Jonathan sera plus là, probablement qu'on va en avoir un ou deux autres qui vont être partis au niveau des échanges. On parle peut-être d'un Edmondson, peut-être d'un Armia, si on est capable de le passer. Même s'il n'a pas joué cette saison, Paul Byron a fini son contrat cette saison. Donc on va avoir beaucoup de 109 et puis avec des mais surtout, on va avoir de la marge pour le futur. Donc, moi, j'espère, puis on parle de huée, puis on parle d'impatience, peut-être éventuellement des gens. J'espère que la direction changera pas son plan à cause de ça. Ça ne se laisserait pas influencer par l'impatience du monde. Et puis, je pense pas qu'il se fasse influencer de la façon qu'on est parti.
Intéressant aussi. Moi, je pense que la date clé, ça sera le jour de la loterie de la Ligue nationale. Parce que si jamais le Canadien, ça se peut que le Canadien remporte le premier choix, là, même s'ils n'ont pas le maximum de chances, même s'ils ne sont pas derniers au classement général et qu'ils n'ont pas 25%, ils vont avoir des chances. Mathématiquement, il y aura des chances. Si jamais ils obtenaient, l'équipe obtenait, l'organisation obtenait le premier choix, c'est sûr que là, ça transforme le Canadien pour les 10 prochaines années en allant chercher Connor Bedard. Ouais. J'ai l'impression que ça va être un événement qui va être très suivi, fameuse loterie. Alors, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Guillaume Lefrançois de La Presse, merci beaucoup.
Merci, Phil.
Stéphane White du 98.5, merci beaucoup.
Toujours un plaisir.
Toujours un plaisir partagé. Et moi, je vous dis bonjour, puis on se retrouve très bientôt pour une autre édition du balado Sortie de zone.